J'en profite parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la fête des pères, donc bonne fête à tous les papas qui sont parmi nous. Et si nous sommes si peu nombreux, c'est également parce qu'une partie de l'Assemblée, ce matin, a couru la course des héros et qu'ils ont aussi eu l'occasion de prendre un temps de communion avec nos frères et sœurs de Vatio. Ils ont vécu un culte aussi là-bas et donc ils ont aussi pu bénéficier d'un temps particulier avec le Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et à écouter la lecture du texte d'aujourd'hui dans Romains chapitre 6, versets 1 à 14. Donc vous avez des Bibles autour de vous. J'en profite aussi pour dire qu'il y a des carnets qui sont devant, qui contiennent donc le texte de Romains. Et ainsi que de la place pour prendre des notes. Donc, si vous voulez prendre un carnet, vous pouvez vous approcher et prendre un carnet qui se trouve devant. C'est offert. Romains chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est un beau texte, n'est-ce pas? Un peu plus tôt dans la semaine, quelqu'un me disait que c'était difficile d'étudier l'Épître aux Romains. En particulier cette partie doctrinale dans le début de la lettre. Et je vous l'accorde, l'Épître aux Romains n'est pas une épître facile. Lorsqu'on prend le temps de s'y plonger, lorsqu'on prend le temps d'essayer de comprendre ce que Paul est en train de dire, on se rend compte que c'est profond, on se rend compte que ça peut être un peu complexe et que ça demande du temps pour que nous puissions bien saisir toute la portée de ce que Paul est en train de dire. Et le texte de cet après-midi ne fait pas exception. Nous avons avec Paul de la doctrine et de la bonne doctrine, essentielle pour la vie chrétienne. Si vous voulez, c'est un repas consistant, mais bon pour la santé, plein de bons nutriments. Peut-être que je ne devrais pas parler de cela au moment de la digestion, mais vous comprenez l'idée. Un bon repas, bon pour la santé. Récapitulons jusque-là le message de Paul dans cette lettre qu'il adresse aux chrétiens de Rome. En fait, en quelques mots, nous pourrions dire que Paul expose l'Évangile pour tous. C'est le titre même de notre série de prédications, l'Évangile pour tous. Paul, c'est ce qu'il est en train de faire dans Romains. Schématiquement, des chapitres 1 à 3, Paul pose une affirmation qui doit mettre tout le monde d'accord. Tout le monde, c'est-à-dire les juifs comme les non-juifs. Cette affirmation est la suivante. Tous ont péché. Tous sont pécheurs devant Dieu. Il n'y a pas un juste. Et c'est pourquoi, chapitres 3 et 4, tous, les juifs comme les non-juifs, sont déclarés justes de la même manière. C'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, qui s'est donné comme sacrifice pour nos péchés. C'est lui qui a été puni à notre place pour toutes nos fautes, afin que Dieu ne nous en tienne plus rigueur. Et grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, eh bien nous recevons le statut de juste. Vous recevez le statut de juste devant Dieu. Nous ne sommes plus maintenant sous le coup de la condamnation. Il n'est plus question de condamnation pour nous. Et chapitre 5, nous avons la paix avec Dieu. Paul rappelle que nous avons la paix avec Dieu, que nous sommes réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et enfin, dans la deuxième partie du chapitre 5, alors que par Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde, atteignant toute l'humanité, par Christ, la grâce et la vie éternelle sont accordées en abondance. Là où le péché abonde, vous connaissez cette formule, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça, c'est l'objet du chapitre 5. Et à partir de là vient une objection au message que Paul est en train de prêcher. Autrement dit, voici cette objection, comme si quelqu'un lui disait « Si je comprends bien ce que tu dis, mon cher Paul, Dieu déclare juste des pécheurs sans que cela dépende de leur obéissance à la loi. Ils n'ont pas besoin d'obéir à la loi pour être sauvés. C'est ce que tu es en train de dire, Paul. » Paul répondrait tout de suite « Oui, 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 cela ne dépend pas de l'obéissance des hommes. » Mais cela dépend de l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ. Et l'autre va répondre, bon, d'accord, mais tu as dit aussi que là où le péché abonde, la grâce surabonde, la grâce est plus grande, parce que le pardon de Dieu peut couvrir cette multitude de péchés. Donc, essayons de suivre le raisonnement. Donc, si nous sommes sauvés uniquement par grâce, alors il n'y a aucun problème à ce que je continue de pécher. À l'extrême, on dirait même, plus je pêche, et plus la grâce abonde. Puisqu'on vient de dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc plus je pêche, et plus la grâce de Dieu abonde. N'est-ce pas un magnifique calcul ? Bien sûr, je veux rassurer tout le monde, je suis ironique là. Et c'est bien ainsi que le texte de cet après-midi commence. Regardez le verset 1, chapitre 6. « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie, afin que la grâce abonde ?» Bien sûr, cette idée est une absurdité. Et l'apôtre Paul va expliquer pourquoi celles et ceux qui ont cru en Jésus-Christ ne peuvent pas persister dans le péché. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Premièrement, mort pour le péché et vivant pour Dieu. Qui n'a jamais eu ce raisonnement qu'il pouvait pécher puisque de toute façon Dieu pardonne? J'ai déjà eu de telles pensées, hein. En tout cas je l'avoue devant vous, j'ai déjà eu ce genre de pensée, juste avant de pécher délibérément devant Dieu. De me dire, je sais que Dieu va me pardonner, donc je peux pécher. Et vous connaissez le résultat. Mais le résultat, c'est que je me suis senti coupable après. Ce n'est pas un soulagement que de se dire, Dieu va me pardonner, donc je peux pécher. Non, parce qu'une fois que j'ai péché, je me sens ensuite coupable derrière. Pire que cela, le raisonnement que je peux pécher puisque Dieu me pardonne ne correspond pas du tout à la pensée de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que Dieu nous enseigne. De nous dire, puisque je vous pardonne, vous pouvez pécher allègrement. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Comme le disait un commentateur, la grâce de Dieu ne permet pas le péché, il l'interdit. La grâce de Dieu ne permet pas le péché, il l'interdit. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Verset 2, certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Certainement pas. L'évangile de grâce que Paul est en train de prêcher de la part du Seigneur n'encourage certainement pas à pécher. Et en voici la raison pour les chrétiens. Ils sont morts pour le péché. Voilà une expression en fait qui n'est pas très courante dans notre langage à l'Église. Nous ne disons pas souvent « nous sommes morts pour le péché ». Et pourtant, si nous avons placé notre confiance en Christ, d'après ce que Paul nous dit ici, nous sommes morts pour le péché. Nous avons plus l'habitude de dire quand même que Jésus est mort pour le péché. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est plutôt cela que nous disons. D'ailleurs, Paul le dit aussi au verset 10. Jésus est mort pour le péché. Alors, est-ce qu'il existe un lien entre le fait que nous soyons morts pour le péché et le fait qu'il soit mort pour le péché ? Est-ce qu'il existe un lien ? Alors oui, il y en a un. Et voici la question que je vous pose cet après-midi. Et j'attends de vous une réponse. Quand nous lisons dans la Bible que Jésus est mort pour nos péchés, qu'est-ce que cela veut dire ? Il n'y a pas de question piège. Oui, Rebecca. Alors, premièrement, on peut dire, quand on dit que Jésus est mort pour nos péchés, ben qu'il l'a fait à notre place, qu'il s'est substitué à nous. Oui. Autre réponse, parce qu'il y a plusieurs réponses. Afin de nous obtenir le pardon des péchés. Effectivement, alors ça, c'est le but. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il soit mort pour nos péchés ? Oui, Thomas. Alors, si nous n'étions pas pécheurs, il n'aurait pas eu besoin de mourir. Donc, effectivement, c'est l'idée qu'il est mort, mais c'est à cause de nous qu'il est mort. Mais dans cet acte de mourir, qu'est-ce que ça signifie, finalement ? Ça renvoie à quoi ? On l'a dit tout à l'heure, un peu plus tôt dans le culte. Plus fort, pour ceux qui murmurent. Alors, effectivement, c'est un sacrifice. Et qui dit sacrifice dit qu'il a effectivement payé un prix. Il a subi une condamnation. En fait, pourquoi la mort ? C'est la sentence de Dieu sur le pécheur. Il a pris notre condamnation. En plus de cela, nous pouvons ajouter, nous l'avons dit aussi tout à l'heure, un peu plus tôt dans le culte, que c'est un sacrifice volontaire. Jésus s'est donné volontairement. Il a payé pour nos péchés. Il a payé en tant que juste pour des injustes, en tant que victime innocente pour des pécheurs que nous sommes. Et si nous pensons à l'image de la dette, nous comprenons qu'une fois la dette payée, et quelle que soit la personne qui paye cette dette, il n'y a plus du tout de dette. Vous êtes d'accord avec moi ? Une fois que la dette est payée, quelle que soit la personne qui a pu la payer, il n'y a plus de dette du tout. Et ce que Paul dit ici, en fait, va encore plus loin. Ce n'est pas seulement que quelqu'un d'autre a payé et que donc maintenant je peux m'en aller libéré de mes dettes. En réalité, quelqu'un d'autre a payé, quelqu'un m'a représenté pour le faire, et d'un point de vue juridique, c'est comme si je m'étais présenté moi-même, personnellement. Vous arrivez à me suivre ? Quelqu'un d'autre a payé à ma place, il l'a fait en tant que représentant, il m'a représenté pour le faire, et juridiquement, c'est comme si c'était moi-même qui m'étais présenté. Donc ça va quand même un peu plus loin que simplement une dette qui a été payée et puis maintenant je peux m'en aller. C'est pourquoi Paul peut dire par la suite que nous sommes morts avec Christ. Et pour comprendre ce que Paul est en train de dire dans ce chapitre 6, il nous faut d'abord comprendre ce qu'est l'union avec Christ. Et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder. Qu'est-ce que c'est que le fait d'être uni à Christ ? Au moment où nous avons mis notre confiance, dans le Seigneur, au moment où nous avons eu foi en Dieu, en Christ, nous avons été unis à Christ. De telle sorte que ce que Jésus a fait soit compté comme si nous l'avions fait. Bien sûr, c'est Jésus et lui seul qui est mort sur la croix, qui a subi notre condamnation. Quant à nous, le fait d'être unis avec lui implique que c'est comme si nous étions nous-mêmes morts sur cette croix. Comme si nous avions nous-mêmes reçu cette peine. C'est pourquoi Paul peut dire aux chrétiens qu'ils sont morts pour le péché. Ils sont morts du fait de leur union avec Christ. La condamnation qu'ils méritaient, ils l'ont bel et bien reçue, mais en la personne de Christ. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Dès lors que je mets ma confiance en Jésus, je bénéficie de tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis uni avec lui, solidaire de ce qu'il a accompli pour moi. Il est mort, je suis mort avec lui, comme si j'avais moi-même payé. Il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. J'obtiens par Jésus le droit de commencer une nouvelle vie. Aux yeux de Dieu, pour le dire encore autrement, la mort de Jésus compte comme notre mort. C'est pour cela que nous pouvons dire « nous sommes morts pour le péché ». Et je crois qu'on devrait souvent le répéter pour nous en souvenir. Nous sommes morts pour le péché. Reprenons Romains 6. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Cette seule question nous conduit à considérer que vivre dans le péché, c'est tout le contraire de la vie chrétienne. Que des personnes qui sont mortes pour le péché ne peuvent plus vivre comme auparavant, ne peuvent plus laisser le péché régner dans leur vie. Qu'il est totalement incompatible, incohérent, illogique, impensable pour un chrétien de vivre encore dans le péché, de vivre comme s'il ne connaissait pas Dieu, d'agir comme s'il ignorait sa volonté, de se laisser dominer par le péché comme si Christ n'avait absolument rien fait pour lui. Il est impensable pour un chrétien de continuer à vivre de cette manière-là. Et Paul continue, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Paul interroge ses destinataires sur ce qu'ils sont censés savoir à propos du baptême. Quand les chrétiens de Rome ont cru en Jésus, ils sont bien passés par le baptême. Ont-ils oublié que leur baptême était en rapport avec la mort de Jésus ? Et nous, est-ce que nous le savons ? Que notre baptême est en rapport avec la mort de Jésus ? Que par le baptême, nous exprimons que nous avons mis notre foi en Jésus ? Que nous exprimons de manière visible ce qui s'est passé intérieurement ? Et tout à l'heure, nous avons dit que par la foi, nous avons été unis à Christ. Et tout ce qu'il a fait compte comme si je l'avais fait. Pour le dire encore autrement, nous avons été unis à Christ lors de la conversion et nous l'avons manifesté lors de notre baptême. C'est la raison pour laquelle Paul dit au verset 4, « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. » Le baptême, c'est le signe fort que nous sommes unis à Christ au point que sa mort est comptée pour la nôtre. Et comme Christ est mort puis ressuscité, eh bien nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes morts avec lui et notre vie de ressuscité est une vie nouvelle, avec un nouveau statut, avec un nouveau maître. Et pour en parler, le pasteur britannique John Stott a utilisé cette illustration. La biographie d'un chrétien peut s'écrire en deux volumes. Le volume 1 correspond à ce que j'étais avant de connaître Dieu, avant de comprendre sa grâce et l'œuvre de Jésus pour moi. Le volume 2 que j'ai ici et qui est la suite correspond à ce que je suis devenu en Christ depuis ma conversion. La vie nouvelle avec Christ correspond au volume 2. Et en réalité, ce volume est toujours en cours d'écriture et il sera sans fin. Donc, je n'ai pas trouvé de livre illimité, donc, mais vous comprenez l'idée. Mais le volume 1 est terminé. Personne ne pense au fait de à une édition révisée et augmentée. Non, le volume 1 est terminé. Maintenant, le volume 2 a déjà commencé. Et je suis en plein dedans. Je remercie ma femme qui me donne des signes. C'est elle, ma complice dans le public. Donc, la personne décrite dans le volume 1 est morte. A été condamnée avec Christ. La personne décrite dans le volume 2 est une nouvelle créature, pardonnée et unie à Christ. Mes amis, si vous avez mis votre foi en Christ, vous êtes unis à Christ. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre du ressenti. Tout comme je ne me lève pas le matin en me disant « Ah, ce matin, je me sens marié. » Non, de fait, je le suis. Je ne le ressens pas, je le suis. Ce n'est pas un ressenti. Il y a eu un mariage civil, une cérémonie à l'église, un échange d'alliances, et c'est de cette manière que nous nous sommes unis avec Damaris. Je n'ai pas besoin de me lever demain matin et de me dire « Ah, ce matin, je me sens marié. » Eh bien, l'union avec Christ, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qui se ressent. C'est un fait. C'est une réalité. C'est ce qui s'est produit. Et vous et moi, si nous avons mis notre foi en Christ, nous sommes unis à lui. Le verset 5 de notre texte présente quelques difficultés. Qu'est-ce que Paul veut dire par une mort ou une résurrection qui est semblable à la sienne ? Certains comprennent que notre mort et notre résurrection ressemblent à celle de Christ sans être totalement identiques. Donc il résout la difficulté de cette manière-là. D'autres estiment que Paul évoque en fait ce qui est en train de se passer dans notre expérience. Il ne s'agit plus de mourir avec Christ, mais en fait d'expérimenter une mort qui est semblable à la sienne. Et pour citer le professeur Sylvain Romerowski, eh bien il considère par exemple que cette mort en question, dont il est question au verset 5, c'est le fait d'abandonner notre ancienne manière de vivre. Et que la résurrection, qui est semblable à celle de Christ, correspond à notre vie nouvelle. Et en ce sens-là, on est dans la continuité aussi du texte. Je ne m'attarde pas là-dessus et je poursuis avec le verset 6. « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Paul ne dit rien de nouveau ici, il n'est pas en train d'ajouter une nouvelle idée. Il parle de ce vieil homme qui a été crucifié avec Christ. Et si nous avons bien suivi son explication, eh bien en fait, il est en train de parler de notre mort avec Christ. Notre vieil homme, c'est la personne que nous étions et qui est le héros ou le méchant du volume 1. Ça, c'est le vieil homme. Mais il est crucifié. En disant qu'il est crucifié, Paul veut dire que la personne que nous étions est morte, a subi la condamnation à travers la mort de Christ. Dans quel but ? Le but nous est donné au verset 6, pour que notre corps ne serve plus le péché. Pourquoi cette personne-là est morte, condamnée ? Pour que notre corps ne serve plus le péché. Pour que cette nouvelle vie, dans le volume 2, pour que cette nouvelle vie, dans cette nouvelle vie, nous ne soyons plus esclaves du péché. Autrement dit, la personne que nous étions dans le volume 1, si vous arrivez à me suivre, était esclave du péché. Servait le péché avec son corps, avait le péché pour maître. Et cette personne-là a été crucifiée avec Christ. est morte pour que le chrétien que je suis maintenant ne soit plus esclave du péché. Le but ultime de Dieu, mes amis, est que nous ne soyons plus du tout esclaves du péché et que notre corps ne soit plus du tout au service du péché. Alors, il y a encore du chemin avant d'en arriver là. Mais quand Christ reviendra, et c'est ça notre espérance, quand Christ reviendra, quand nos corps ressusciteront, s'il revient après notre mort, eh bien, notre corps et toute notre personne ne seront plus au service du péché. Plus du tout. Tout notre être sera au service de Dieu, entièrement et pour toujours. Dieu qui a commencé cette œuvre en nous ira jusqu'au bout du changement. Et Paul ajoute, verset 7, « En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » En fait, le verbe grec signifie plutôt « justifier ». Par rapport au péché, celui qui est mort n'a plus à rendre des comptes. La condamnation a déjà eu lieu. Celui qui est mort grâce à la mort de Christ est donc déclaré juste, non condamné. Et désormais, tout ce qui attend le chrétien, c'est la vie avec Christ, unie à Christ. Il ne s'agit plus de condamnation ou de mort. C'est déjà fait. C'est là qu'est la joyeuse et bonne nouvelle. C'est déjà fait. Il n'est plus question de condamnation. Christ l'a accompli pour nous une fois pour toutes. Et comme nous le lisons au verset 9, Christ ressuscité ne meurt plus. Il n'est plus question de mourir encore pour nos péchés. C'est fait. Christ est vivant et il vit pour Dieu. Donc, verset 11, « De la même manière, vous aussi, considérez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Cet après-midi, c'est cette réalité-là que nous devons comprendre. Que nous sommes morts pour le péché, non pas dans le sens que nous serions devenus insensibles au péché. Nous voyons bien dans notre expérience que ce n'est pas vrai. Mais la condamnation de nos péchés a eu lieu. C'est en ce sens-là que nous sommes déjà morts. La condamnation a déjà eu lieu. Elle est tombée sur Christ. Quand Christ est mort, c'est comme si j'étais mort à cause de mon union à lui. Je suis au bénéfice de tout ce qu'il a fait pour moi. D'un point de vue juridique, devant Dieu, mon vieil homme est mort pour le péché. Et si la condamnation de mes péchés a eu lieu, si la sentence a été exécutée, Dieu peut me déclarer juste. Dieu peut donc m'accorder la vie. C'est pour cette raison que Paul veut que les chrétiens de Rome se considèrent comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ils ne sont plus condamnés, mais ils sont vivants pour Dieu. Justifiés pour Dieu. C'est là notre nouveau statut, notre nouvelle vie. La manière dont nous devons nous percevoir en tant que chrétiens, la manière dont vous devez vous percevoir. Vous n'êtes plus condamné, vous êtes vivant pour Dieu. Est-ce que depuis que je suis chrétien, j'ai conscience de cela? Est-ce que ma manière de vivre suit cette réalité que je viens de décrire? À savoir que je ne dois rien au péché et que je dois tout à Dieu. Et si je vis désormais, aujourd'hui, volume 2, si je vis désormais grâce à Jésus qui m'a permis d'avoir cette nouvelle vie, est-ce que je vis encore pour le péché ou bien pour Dieu? Logiquement et clairement, le volume 2 concerne la vie pour Dieu. La vie pour le péché, c'était là. Et nous l'avons déjà vécu. Mais là, on a une nouvelle vie. Est-ce que notre vie est pour lui? Comme la vie de Christ est pour Dieu. C'est ainsi que Paul exhorte encore dans les derniers versets de notre passage. Et donc, deuxièmement, après avoir vu mort pour le péché et vivant pour Dieu, eh bien, en fait, de la même manière, on dirait non au péché et un grand oui à Dieu. non au péché et un grand oui à Dieu. Je relis les versets 12 et 13. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Puisque nous sommes morts pour le péché ne doit donc pas revenir en maître ou en roi. C'est parce que je suis mort pour le péché que je peux dire non aujourd'hui au péché. Tu n'as plus droit de cité dans ma vie. Tu n'es plus mon maître comme autrefois. Parce que je suis déjà mort grâce à Christ. Et maintenant j'ai une nouvelle vie. Donc, toi le péché, laisse-moi tranquille. C'est parce que je suis mort pour le péché que je refuse de mettre mon corps au service du péché. Oui, il est question de corps, de membres physiques. Et nous comprenons bien que ce n'est pas le corps qui est mauvais. Le péché est mauvais, non pas le corps. Utiliser son corps pour pécher est mauvais, mais non pas le corps lui-même. Parce que si le corps était mauvais en soi, Paul n'encouragerait pas à le mettre au service de Dieu et de sa justice. Donc en soi, le corps n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est le péché. Ce qui est mauvais, c'est aussi ce qui se joue intérieurement au niveau des désirs, des mauvais désirs. Mais le corps, en soi, a quelque chose, a un statut neutre. Et selon comment on l'utilise, eh bien, il sera soit au service du péché, soit au service de Dieu. La bataille se joue là, dans la manière dont nous allons utiliser notre corps, nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos mains, nos pieds, nos parties intimes. Que le péché ne règne plus sur ce corps pour en faire un instrument de destruction, parfois massive. Désormais, celui qui règne sur nous, volume 2, c'est Dieu. Volume 1, celui qui régnait, c'était le péché. Volume 2, c'est Dieu. Et je suis déjà dans le volume 2. Désormais, celui qui règne sur nous, c'est Dieu. Considérez-vous comme vivant pour Dieu. De manière positive, l'exhortation se résume à dire un grand oui à Dieu. Non au péché, mais un grand oui à Dieu. Regardez la deuxième partie du verset 13. Livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres, le corps entier, vos membres, à son service comme des instruments de la justice. Il s'agit de se donner entièrement à lui. Comme Christ vit pour Dieu, nous vivons pour Dieu dans notre corps. Est-ce que notre corps sert à cela, à vivre pour Dieu? Ce corps que Dieu nous a donné, ces membres qui nous servent au quotidien, ont changé de maître. Et ce maître, ce n'est plus le péché. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est maître de mon corps maintenant. La vie nouvelle qui a débuté au moment de ma conversion ne m'appartient pas. Cette vie nouvelle n'appartient pas au péché non plus, mais elle appartient à Dieu. Ma vie n'est pas à moi, en tout cas n'est plus à moi. Si j'ai une vie nouvelle, c'est grâce à Christ. Autrement, je serais toujours dans le volume 1. Je serais coincé dans ce livre. Mais ma vie nouvelle, je la dois à Christ. Donc, elle ne m'appartient pas. Cette vie lui appartient maintenant et pour toujours. Ne nous faisons pas d'illusions lorsque nous pensons être maîtres dans notre vie. Parce qu'en fait, nous faisons seulement revenir celui qui régnait sur nous, à savoir le péché. La vie chrétienne ne m'appartient plus. Et je crois qu'à une époque et dans une société où on insiste tant pour être en maîtrise de sa propre vie et de ses propres choix, eh bien tout cela va complètement à l'encontre de ce que Paul est en train de nous dire ici. Ton corps, ta vie, ne sont plus à toi. Volontairement, tu les as offerts à Dieu. Et si je comprends bien tout cela, cela signifie qu'une lutte est engagée contre le péché. En 1 Pierre chapitre 2, verset 11, nous lisons « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Je vous encourage à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Et je crois que le plus grand drame en tant que chrétien, c'est que nous ne nous rendions pas compte de cette guerre. Et pourtant, nous en voyons les conséquences dans notre propre vie. Nous voyons combien le péché peut reprendre de l'influence et chercher à régner encore et encore. Et nous avons dit que le corps n'était pas le problème. Ce sont les désirs mauvais que nous pouvons avoir. Ce sont ces désirs qui font la guerre à notre âme, tant que nous sommes ici-bas. C'est ce que nous convoitons, cette chose que nous ne possédons pas, cette relation que nous n'avons pas. Et quand le péché régnait dans notre vie, nous étions prêts à tout pour obtenir l'objet de notre désir. Notre corps servait à voler, à mentir, à médire, à donner des coups peut-être. Ça, c'est volume 1. Mais par notre union avec Christ, nous sommes morts pour le péché et vivants pour Dieu. Et dans notre nouvelle vie, Dieu se charge de transformer nos désirs pour que notre corps serve à la justice. Au lieu de dérober, notre corps voudra donner, être généreux. Au lieu de s'adonner à la pornographie, notre corps honorera Dieu en réservant la sexualité dans le cadre du mariage et avec l'époux ou l'épouse avec qui nous sommes ou serons mariés. Au lieu de mentir, ma bouche servira à dire la vérité, y compris la vérité de la parole de Dieu. Au lieu de nous livrer à la paresse, notre corps devient un instrument pour servir mon prochain, dans l'Église et en dehors. C'est ça le volume 2 que je suis en train de vous décrire. La bataille n'est pas facile, je vous l'accorde, surtout lorsque nous sommes dans des addictions ou lorsque nous avons pris de mauvaises habitudes depuis longtemps. Mais la rudesse du combat ne change rien à l'exhortation de Paul. Jour après jour, il s'agit pour nous de nous livrer entièrement à Dieu, de mettre notre corps à son service, jour après jour. C'est une démarche qui se renouvelle chaque jour. Ce n'est pas juste aujourd'hui ou il y a très longtemps que vous avez fait cet engagement et puis ça s'arrête là. C'est jour après jour. Ça se renouvelle chaque jour, dès demain, lundi. Et c'est la première prière de la journée que nous formulerons. Seigneur, comme hier, je me livre entièrement à toi. Aide-moi à mettre mes membres à ton service comme des instruments de la justice. La rudesse du combat que j'ai évoqué et qui est une réalité, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas dur, c'est une réalité, mais la rudesse de ce combat ne peut pas effacer ce que Paul dit au verset 14. Donnez-vous entièrement à Dieu, et regardez le verset 14, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est censé nous encourager, d'avoir une telle affirmation. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Autrement dit, le péché ne pourra plus agir en maître avec nous qui sommes en Christ. En tout cas, il n'est pas censé le faire. Et nous ne sommes pas censés le laisser faire. Nous avons changé de maître. Nous avons changé de roi, de seigneur. Notre maître s'appelle Christ. Et c'est lui qui nous gardera sous sa bannière. En plus de cela, il faut ajouter que nous avons changé de régime. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Sous la loi, et sans nous appuyer sur Dieu, tout ce qui pouvait en résulter, c'était le péché, la mort, la condamnation. Mais sous la grâce, qui est notre nouveau régime, et qui est le régime du volume 2, sous la grâce, c'est le pardon, la vie, la justification. Et comme nous le verrons aussi dans les prochains chapitres, sous la grâce, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, aucune transformation, aucun changement, aucune victoire ne sont possibles. Mais béni soit Dieu, car c'est lui qui change notre volonté, nos désirs, notre cœur. Il nous appelle cet après-midi par sa parole à nous donner tout à lui, entièrement à lui. Je conclus. Nous avons parlé de l'union avec Christ. Par la foi, nous sommes unis à lui et au bénéfice de tout ce qu'il a accompli pour nous. Parce qu'il est mort pour le péché, je suis aussi, par mon union avec lui, mort pour le péché. Je n'ai plus rien à payer. Et là où auparavant le péché régnait dans ma vie, je sais maintenant que je n'ai plus à être à son service. Parce que cela ne correspond plus à la nouvelle personne que je suis en Christ. Comme Christ est ressuscité et vivant pour Dieu, je suis vivant pour Dieu par mon union avec lui. Et ma seule manière de vivre est de vivre pour Dieu. Je ne peux pas expliquer autrement le contenu du volume 2. Ma seule manière de vivre est de vivre pour Dieu, de mettre mon corps, celui que vous avez présentement, de mettre mon corps à son service chaque jour. Et la semaine prochaine, nous continuerons à méditer sur ces thèmes. Et je suis certain qu'avec sa parole, Dieu est en train d'œuvrer en nous pour nous transformer, pour que nous vivions joyeusement cette vie nouvelle en Christ, qui est le volume 2. Une vie où nous disons non au péché et un grand oui à Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Accorde-nous, Seigneur, encore de pouvoir continuer à méditer sur ces vérités que nous venons d'évoquer. Des réalités qui sont si profondes, qui méritent effectivement de prendre le temps que nous puissions nous attarder dessus. Tout simplement parce que ce sont des réalités merveilleuses, de savoir que par la foi, nous sommes unis à Christ. Nous sommes unis à lui pour toujours et nous sommes au bénéfice de tout ce qu'il a accompli pour nous. Et merci parce que la personne que nous étions auparavant, avant de te connaître, n'est plus. Elle a été crucifiée avec Christ. Mais la personne que je suis aujourd'hui, eh bien, je te dois d'être une telle personne qui a maintenant une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, cette vie que tu m'as accordée en Jésus-Christ, eh bien, elle n'est pas à moi, mais elle t'appartient. Et c'est pourquoi, puisque cette vie est à toi, eh bien, je continuerai à dire non au péché. Je continuerai à refuser de livrer mon corps pour assouvir de mauvais désirs. Bien au contraire. Puisque cette vie est à toi, eh bien, je continuerai à m'offrir à toi et à te donner mon corps pour qu'il soit un instrument à ton service, un instrument pour ta justice. Oui, Seigneur, nous avons encore besoin de comprendre tout cela peut-être plus profondément. Et merci de continuer à nous ouvrir à l'intelligence pour comprendre tout cela et pour pouvoir le vivre dans notre vie présente. Une vie où la lutte contre le péché est si ardue, si difficile, si rude. Mais nous avons cette assurance, parce que c'est toi qui le dis dans ta parole, que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous, ne pourra pas continuellement régner sur nous. Oui, notre espérance, et nous regardons cette espérance avec joie, notre espérance c'est qu'un jour notre corps ne servira plus du tout le péché et que nous serons entièrement à ton service et pour ta gloire. Ça, c'est notre espérance et nous te remercions de nous montrer un tel avenir. Nous te bénissons ensemble au nom de Jésus. Amen.